Alors bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir au téléphone et me répondant de la France, le docteur Olivier Soulier, médecin
bonjour.
Praticien. Bonjour Olivier. Alors vous êtes médecin praticien, vous êtes scientifique, vous êtes écrivain, vous êtes conférencier international. Enfin bref, vous êtes un homme plus que complet, il faut le dire. Alors nous allons parler avec vous de la médecine du sens, ce qui est une vision nouvelle de la santé, de la guérison et une nouvelle compréhension de soi. Alors, Olivier Soulier, j'aurais mille et une questions à vous poser, mais il faut bien qu'on commence par une base. Alors, la base va être la suivante. Vous dites que notre corps porte en lui toute la mémoire de notre vécu, puis la solution de nos problèmes. Alors, j'ai envie de vous dire, mais comment ?
Comment ? Parce que nous sommes vivants. Parce que l'être humain existe depuis des millions d'années. Nous sommes vivants et c'est parce que nous sommes vivants que nous avions les bonnes solutions. Donc, il est important de comprendre que nous avons à l'intérieur de nous à la fois tous les problèmes possibles et toutes les solutions. Et que notre corps a en lui toutes les solutions pour solutionner ce qui nous arrive. Imaginez qu'une maladie est un problème. Non, une maladie, c'est une réaction face à une difficulté que nous rencontrons.
Ça paraît tellement facile quand je vous entends parler comme ça.
Oui, ça paraît facile peut-être. Mais je pense que c'est comme ça que ça fonctionne.
Donc on a des réactions qui peuvent être peine, chagrin, douleur, autres que l'on reçoit et qui nous envoient vers certaines maladies symptomatiques.
Oui, qui nous envoient vers certains types de réactions en fait. Il faut imaginer que chaque être humain a un potentiel d'existence, que ce potentiel d'existence est à la fois dans son patrimoine génétique et chromosomique, il est aussi dans son héritage personnel et transgénérationnel, il est dans son énergie propre. Et que ce mode de fonctionnement, cette énergie, n'a qu'une seule envie, c'est de s'accomplir. Et donc, vous voyez, nos petits-enfants qui sont là, qui sont à chercher partout, à être très, très curieux, à toucher à tout, ce qui parfois énerve leurs parents d'ailleurs. Mais vous les voyez avec une tendance, une volonté à se déployer considérable. Et ils vont au fur et à mesure avancer. Ils vont rencontrer des problèmes. Alors évidemment, s'ils tombent, s'ils se cassent une jambe, vous allez comprendre qu'effectivement, ils ont voulu faire quelque chose, ils rencontrent une difficulté, mais que l'os va cicatriser, que la plaie va se refermer. Et ça, tout le monde doit comprendre.
Oui, ça, c'est sûr.
Ils vont pouvoir aussi avoir des peurs, ils vont pouvoir avoir d'autres choses, il y aura des maladies pour réagir par rapport à ça.
Quand on commence à prendre conscience de ça, comment vous en êtes venu ? Parce que j'ai vu que vous aviez étudié l'infiniment petit.
L'embryologie, oui. Oui, alors, en fait, bon, l'embryologie, ça fait partie des éléments qui m'ont passionné. L'embryologie, qu'est-ce que c'est ? C'est le développement de l'être humain depuis la première cellule, c'est-à-dire quand l'ovule a été fécondé par le spermatozoïde, on appelle ça le zygote.
Oui.
Et cette première cellule, qui est déjà un être humain en lui-même, mais qui est simplement moins manifesté, va se manifester progressivement en se promenant dans la trompe, puis en allant s'implanter dans la paroi de l'utérus, ce que l'embryologiste allemand Erich Bleischmidt appelait le champ biométabolique. De l'infiniment petit, je veux dire que l'infiniment petit tel qu'on peut le voir dans l'embryologie, c'est la même chose qu'on le voit dans l'infiniment grand. D'ailleurs, c'est quelque chose qui me passionne tellement que nous avons sorti un film ces derniers jours sur l'embryologie pour justement partager tous ces mystères extraordinaires.
Parce que vous faites des DVD pour expliquer tout ça en conférence.
En fait, depuis un certain nombre d'années, je me suis dit qu'il était important de diffuser cette information. Ça fait 30 ans que je travaille dans mon cabinet en expérimentant tous les jours et au quotidien, pas dans des conférences théoriques, avoir des patients à longueur de journée pour voir si ce que je dis est vrai et surtout pour essayer de comprendre tout ce que mes patients m'ont appris. Et puis, j'arrive à une période de ma vie où je me dis qu'il est important de diffuser ça. Et comme je parle plus facilement que je n'écris, eh bien, quand je fais des conférences, des séminaires, eh bien, j'enregistre, je filme. Et on a sorti un certain nombre de films sur les microbes, sur les désirs alimentaires, sur le dernier qui est sorti il y a une semaine, c'est sur l'embryologie. Et puis Jean-Yves Billien a fait ce film magnifique sur médecine du sens, qui je crois a été vu à 23 500 personnes dans le festival qui s'est passé récemment à l'initiative d'une de vos consoeurs québécoises.
Oui.
Et voilà, dans le festival Éveiller conscience. Effectivement, parmi mes objectifs de vie aujourd'hui, c'est de diffuser cette information le plus largement possible.
Vous allez venir ici au Québec.
Voilà,
vous allez revenir.
Revenir, parce que je suis déjà venu il y a une dizaine d'années. J'ai dû faire une dizaine de séminaires à une époque. Et j'ai beaucoup d'amis québécois que je connais bien.
Donc ça va vous faire plaisir de revenir.
Ah, j'aime beaucoup venir au Québec. C'est un grand plaisir, une grande amitié pour moi. Et je me réjouis d'avance d'imaginer revenir au Québec. Mais j'y viens même régulièrement quand je ne fais pas des séminaires, parce que j'ai pas mal d'amis au Québec.
Là, vous allez venir travailler.
Pour travailler avec vous. Je vais venir pour travailler avec vous.
Oui.
En fait, On va faire d'abord une journée sur la sclérose en plaques, parce que j'ai travaillé depuis 25 ans sur la sclérose en plaques, et je me suis rendu compte que cette maladie qui était, enfin, que la médecine officielle m'avait appris comme étant incurable.
C'est ça.
Même si ils en trouvent un certain nombre de médicaments maintenant, mais avec des actions qui restent quand même limitées, je me suis rendu compte qu'on pouvait la soigner, voire la guérir assez facilement. Et donc je me suis intéressé, et depuis 25 ans j'ai soigné des centaines de personnes. Et il y a 2 ans, on avait fait à Paris avec mon ami Willy Barral, qui était un élève de Dolto.
Qui avait lui-même cette maladie, non ?
Voilà, Willy, il a eu une sclérose en plaques assez foudroyante à 60 ans, et il s'en est guéri au bout d'un an.
Formidable.
Contre l'avis de tous les neurologues, mais il s'en est complètement guéri. Alors, quand j'allais chez Willy, il habite en montagne, à Saint-Apollinaire, dans les Alpes du Sud, et il y avait une maison avec plein d'étages, et il y avait une cage d'ascenseur sans ascenseur. Parce que quand il a acheté cette maison, au début, il a été prudent, il a fait faire une cage d'ascenseur, et puis en fait, il n'y avait pas d'ascenseur dedans, puisqu'il marchait très bien, on faisait des longues balades, des dizaines de kilomètres. Pour quelqu'un qui a une sclérose en plaques depuis 10 ans, c'est impossible, évidemment. Donc il était parfaitement guéri. Donc vous voyez, voilà. Donc on a fait aussi un DVD sur sortir de la sclérose en plaques, qui est le compte-rendu du congrès qu'on avait fait à Paris, en 2012.
Où vous avez, où il y a dessus un nombre conséquent d'heures de travail, de réponses en tout cas.
Oui, le DVD fait 11 heures.
Oui.
Parce qu'en fait, cette réunion a eu énormément de succès et on a dû refuser beaucoup de monde. Ce qui fait qu'on s'est dit qu'on pouvait le filmer et le mettre en DVD.
Et parce que vous vous rendez compte
C'est un peu comme ça qu'on a commencé à faire des DVD en fait.
La sclérose en plaques, c'est quelque chose qui a toujours fait peur. C'est quelque chose où... Moi, j'ai connu des gens atteints... J'ai connu une personne atteinte de sclérose en plaques pour qui sa vie était finie à partir du moment où elle en était atteinte. Et ça remonte...
La sclérose en plaques, je le dis, c'est pas un arrêt de mort, c'est un arrêt de vie.
C'est un arrêt de vie.
Mais la sclérose en plaques, ça soigne très bien. Mais vous savez, c'est aussi un peu comme toutes les maladies, en fait. Je pense pas qu'il y ait de maladies graves. Il y a des maladies où le problème à l'origine est grave. Mais de maladies graves en soi, il n'y en a pas. Toutes les maladies auto-immunes, ce sont des maladies qui vont en fait toucher la structure de la personnalité. Donc la structure familiale, les structures des préjugés, les structures des principes. Et effectivement, aborder les structures des principes familiaux, des principes hérités, ça c'est très compliqué. Si vous ne voulez pas aborder ce genre de principes-là, vous ne guérirez jamais d'une maladie auto-immune. Mais si vous êtes prêt à faire table rase et à reconstruire quelque chose de nouveau qui vous appartient, qui est vraiment vous-même, là vous pourrez guérir de la maladie auto-immune. Évidemment, il ne faut pas être trop avancé et pas avoir trop de lésions de destruction. Mais si aux phases de début, quand le processus n'est pas trop avancé, on peut obtenir de très bons résultats, voire même après. Mais les résultats existent, mais sont moins flagrants, moins importants, je dirais.
Alors, vous parlez de recevoir des gens qui sont malades. Vous avez donc des personnes qui viennent vous voir. Des fois, est-ce que on n'a pas, comment dirais-je, est-ce que des fois on n'a pas l'impression de dire, bah, écoutez, j'aurais envie de changer, mais comment je dois faire et ne pas y arriver ?
Oui, oui. Je veux dire, c'est votre problème, c'est notre problème à tous, c'est le vôtre, c'est le mien. Hein.
Oui.
Ne rêvons pas, on n'est pas différents, vous et moi, et on n'est pas différents des autres personnes. Moi aussi, tous les jours, tous les matins, je me lève, je me dis, oh, ça, t'aimerais bien être capable de le faire, mais tu n'arrives pas, c'est comme ça, essaye d'accepter les choses comme ça. On est tous dans cette situation-là. Hein. Je ne suis pas parfait, vous ne l'êtes pas. Et souvent, la solution, ça passe d'abord par l'acceptation de nos limites, de nos incapacités. Je crois que la perfection, ça n'existe pas. Ce qu'on peut faire, c'est accepter notre imperfection. C'est déjà une très bonne chose. Et puis, c'est vrai que ne pas accepter son imperfection, c'est un obstacle absolu à la guérison. Vouloir être parfait, c'est un obstacle absolu à la guérison. Parce que si vous êtes parfait, vous ne pouvez pas apprendre. Si vous n'apprenez pas, vous ne pouvez pas guérir.
Donc ça veut dire que quelque part, vous travaillez d'abord sur la peur aussi. La peur qui fait qu'on n'arrive pas, à parler parce qu'on a peur de regarder en face certaines choses.
La peur, c'est d'abord le premier obstacle à l'amour, avec l'orgueil. Et parce que l'inverse de l'amour, c'est pas la haine, ce qui est souvent de l'amour renversé. L'inverse de l'amour, c'est la peur et l'orgueil. Et c'est parce qu'on s'aime pas suffisamment qu'on est confronté à ce genre de choses. Mais je pense que ce qui est important, je travaille sur la nature humaine, je travaille avec les gens qui viennent me voir.
C'est
et c'est comme ça qu'il faut faire. Mais vous savez, c'est pas du tout un miracle, c'est quelque chose de très simple, c'est quelque chose qu'on voit tous les jours avec beaucoup de bon sens, en fait. C'est pas, n'imaginez pas que j'ai des recettes particulières, non, je travaille le plus possible avec mon bon sens au quotidien.
Justement, Olivier Soulier, les gens qui viennent vous voir, est-ce que vous apprenez avec eux ?
Oui, bien sûr que mes patients m'apprennent beaucoup de choses. En fait, vous savez, moi j'ai commencé, j'étais un médecin généraliste homéopathe de quartier, et puis j'ai vu des gens qui venaient me voir, et je me suis en permanence interrogé sur pourquoi ça bloquait, pourquoi ça n'allait pas. Et mes patients m'ont appris pratiquement tout ce que je sais. Je me souviens un jour d'une jeune femme qui avait 5 enfants, qui en a eu un 6e après, et qui me disait, un jour tu verras, les enfants cagoules sont toujours malades. Et les enfants cagoules, c'est-à-dire les enfants avec des cagoules. Et je lui dis, ah bon, d'accord. Puis j'ai regardé, puis je me suis rendu compte qu'elle avait raison, quoi. Avec ses 5 enfants, elle avait pas bien compris la chose. Et effectivement, j'en ai fait un article une dizaine d'années après où je lui rends hommage et je dis, effectivement, les enfants cagoules sont toujours malades.
Et pourquoi ça? C'est dû à quoi?
Bah, parce que quand vous avez un enfant, il a des capteurs pour capter le froid qui sont au niveau du cou. Si vous couvrez les capteurs, il peut pas rééquilibrer sa température. Et puis la cagoule, ça parle de la peur des parents. Ah. Et si le parent dit la vie est dangereuse, eh bien l'enfant a peur. Si le parent dit la vie n'est pas dangereuse, l'enfant n'a pas peur. Et si le parent donne l'information sur laquelle la vie est dangereuse, eh bien l'enfant va somatiser en rapport avec la peur des parents. Ben, vous savez, ça c'est aussi classique que les mère-poule, hein. Donc c'est extrêmement répandu, mais enfin c'est pas très grave. C'est pas bien grave. Mais ça permet de faire, c'est un petit exemple qui permet de faire des expériences très simples. Je dis aux, vraiment, bah, allez, on fait le pari, vous enlevez la cagoule pendant 3 mois, vous verrez bien. Au bout de 3 mois, il y a un ou deux rhumes au début, puis à la fin, elle revient en disant, bah, c'est vrai, ils sont plus jamais malades. Et d'ailleurs, l'institutrice m'a dit que tous ceux qui n'avaient pas de cagoule n'étaient pas malades. Vous voyez, même en hiver, quand ils disaient, bah, bien sûr, madame, regardez.
Alors, expliquez-moi comment vous en êtes venu là, parce que vous avez étudié en médecine, on va dire, classique.
Oui, j'ai étudié en médecine classique.
Et après, vous avez bifurqué.
Oui, j'ai beaucoup aimé. J'explique ça très en détail dans le film de Jean-Yves Bilien, « Médecine du sens ». Au début, j'ai adoré les premières années très scientifiques. Et puis, quand je suis arrivé dans la clinique, dans les hôpitaux, j'ai trouvé que c'était très limité. Bon, c'était des très bons techniciens, consciencieux, auxquels, sur le fond, on ne peut rien reprocher. Mais il manquait une volonté de comprendre ce qui se passait. Et au travers de ça, je me suis rendu compte que ça ne me satisfaisait pas. Et alors là, j'avais deux solutions. Ou bien je changeais de métier, parce que je me disais, je suis pas fait pour être médecin. Ou bien j'ai essayé de trouver autre chose. Et un petit peu à la fois, j'ai cherché. Mais je crois que j'avais ça en moi, ce chercher à comprendre le sens des choses. De ne pas me satisfaire de ce qu'on me disait, de ne pas prendre pour argent comptant toutes les affirmations. En fait, je crois qu'il est important de savoir douter.
Oui.
De se dire que s'il y a une vérité, c'est bien, mais c'est Claude Bernard qui disait, si un fait vient contredire la vérité officielle, eh bien, accrochez-vous au fait et laissez tomber la vérité officielle. Puisque si elle est contredite, c'est qu'elle ne fonctionne pas. Donc, je crois que c'est comme ça. Je pense que on a beaucoup voulu standardiser la pensée humaine, et je pense que les humains en sont d'une richesse et d'une créativité, et que si on les laisse en quelque sorte à leur... sens de la découverte et de la création, on a des choses extraordinaires. Et moi, j'ai appliqué ça dans ma vie, tout simplement. C'est comme ça que j'y suis arrivé. Et je m'amuse énormément. Et aujourd'hui, j'aime beaucoup transmettre cette information. D'ailleurs, j'en profite pour dire une chose qui me tient beaucoup à cœur.
Oui.
C'est-à-dire qu'il y a un an, j'ai décidé, quand on a restructuré le site internet, de rendre public une lettre que j'envoyais à une centaine d'amis où je communiquais des articles que je trouvais intéressants, que je commentais. Et j'ai rendu cette lettre publique et n'importe qui sur mon site lessymboles.com peut s'inscrire à cette lettre que je veux gratuite et que j'envoie toutes les semaines avec entre 5 et 10 articles commentés et qui s'appelle la lettre de la médecine du sens. Et en moins d'un an, on est 3500, presque 4000. Et c'est un moyen que j'ai trouvé pour diffuser une autre vision de la médecine. Donc la lettre de la médecine du sens sur le site internet lessymboles.com, c'est gratuit, vous vous inscrivez, et comme ça on va partager tout ça. Et en plus de ça, maintenant les gens qui lisent la lettre, quand ils trouvent un article, une idée intéressante, ils me l'envoient. Dès l'autre fois, j'ai un de mes amis qui m'envoie, qui lit la lettre avec attention, qui m'envoie un article qui dit qu'en fait, quand vous faites dormir les enfants dans des peaux de bêtes, donc des peaux de mouton, des peaux d'ours, des peaux de... comme on faisait dans les civilisations anciennes.
Oui.
Eh bien, ils sont beaucoup moins malades que les autres, ils n'ont jamais d'allergie. C'est étonnant.
Précipitons-nous sur les peaux de bêtes.
Oui, mais ça veut dire que... pourquoi ? Parce que dans les peaux de bêtes, il y a des tas de bactéries, Et ça forme l'immunité des enfants, alors que quand vous stérilisez tout, les biberons, tout, vous obtenez rien d'intéressant. C'est sorti d'ailleurs dans la presse médicale et je le publie dans la lettre qui est partie aujourd'hui. Et ce sont ce genre d'informations que je publie.
Reconnaissez que quand même la médecine traditionnelle nous a assez fait peur à certaines époques pour qu'on essaye de stériliser presque tout ce qui nous entourait.
Alors bon, c'est vrai. Bon, on est sorti d'une époque ancienne où il n'y avait pas beaucoup d'hygiène. Effectivement, le manque d'hygiène, mais il y avait le manque d'hygiène, mais il y avait surtout la pauvreté, la faim, la dénutrition qui était responsable des maladies. Donc on a pensé à un moment qu'en stérilisant tout, on obtiendrait des solutions. Mais en fait, on se rend compte aujourd'hui que le fait de stériliser non seulement n'aide rien, mais favorise les maladies. Et en particulier, il fait flamber les maladies allergiques et les maladies auto-immunes. Donc c'est ça qui est important de comprendre, c'est que l'être humain, il est en équilibre dans un ensemble. Et c'est parce qu'il est en équilibre, en accord avec l'ensemble, qu'il fonctionne bien. Mais si vous le sortez de son contexte, il ne va pas fonctionner comme il faut. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous savez, la médecine, c'est très simple.
C'est une phrase que j'aime vous entendre dire parce que c'est pas quelque chose d'habituel ou d'usité que la médecine soit simple.
Oui, la médecine c'est simple, la vie c'est très simple, la vie ça pousse, ça grandit et tout ce qui s'oppose à la croissance et à l'épanouissement déclenche une réaction. Si on réussit à dépasser, on va plus loin, si ça bloque on essaie de lutter contre et ainsi de suite. La vie va dans le sens, la vie n'a qu'un seul but, c'est de s'accomplir. Si vous comprenez cette phrase, vous avez tout compris.
Donc ça veut dire que tous nos conflits, on les soigne, et que dès qu'on a soigné nos conflits, on soigne les maladies qui dépendent de ces conflits.
Alors, il faut faire attention à ce qu'on dit, parce que, vous savez, il y a eu la grande mode du décodage et du décodage biologique, où les gens ont dit, ça y est, j'ai compris mon conflit, donc j'ai plus besoin de me soigner, je suis guéri. Et moi, j'avais l'habitude de dire que ces gens-là avaient vite fait de mourir guéris. Parce qu'ils pensaient avoir compris et puis ils n'avaient pas compris, etc., etc. Donc, il y a aussi un peu l'orgueil humain qui va dire « Regardez-moi, j'ai tout compris. J'ai tout compris. » En fait, non, on n'a pas compris. Je pense qu'on ne va pas dire « J'ai compris mon conflit, je suis guéri. » On va dire « Bon, je vais essayer de comprendre, de faire attention à ce qui m'arrive, de devenir sensible aux choses, d'essayer de réagir au mieux. » Mais allez, des fois, vous avez parfaitement compris ce qui vous arrive et vous n'arrivez pas à faire autrement. Hein. Vous savez bien ça.
Oui, je le sais. Je le sais, mais je suis obligée de vous poser des questions pour vous amener à me raconter ça, justement. Moi, j'y crois. Je veux savoir.
C'est un plaisir.
Et alors, il y a quelque chose qui me passionne, et puis je trouve ça absolument fabuleux, c'est les histoires transgénérationnelles.
Oui, oui, alors, c'est tout à fait intéressant, oui.
Parce que notre histoire implique l'histoire de nos parents et de notre génération.
Oui, oui, totalement. Bon, on a un certain nombre de... On est issu d'un faisceau qui vient du transgénérationnel. Alors, transgénérationnel, je vais être assez précis, c'est le meilleur et c'est le pire aussi.
Ah oui ?
On a des faisceaux d'informations très intéressants dans le sens où vous avez des informations qui vont venir par la génétique, les chromosomes, qui sont des potentiels de maladies ou de potentiels d'inaccomplis en quelque sorte, puis ce qu'on appelle l'épigénétique, qui sont des informations qui sont autour des chromosomes, qui sont beaucoup moins entrées dans la matière, donc ce sont des informations beaucoup plus récentes. Et puis il y a des choses qui vont être transmises directement par les modes de vie, les modes de fonctionnement, par les peurs, les craintes, par le vécu in utero. L'ensemble de ces faisceaux-là, de ces idées, de ces intentions que nos parents ont pour nous, vont interagir et on va partir de ça. C'est Cyrulnik qui disait que le propre de l'être humain, c'est qu'il doit naître de quelqu'un d'autre pour devenir lui-même. Donc en fait, notre page d'écriture, elle est un peu brouillée au début. Il va nous appartenir de comprendre ce qui peut nous orienter, nous préorienter ou nous prédéterminer pour essayer de s'en détacher, de bien comprendre ça. Et ça, c'est très important. Le transgénérationnel nous a permis de comprendre énormément de choses, de comprendre pourquoi il y avait des situations totalement inexplicables ou inextricables, comment on était face à des répétitions de notre histoire, comment on revivait, comment on vivait la vie de nos parents ou de nos grands-parents, le souhait des uns et des autres. Ça, c'est des choses qui sont très importantes à comprendre et que j'enseigne aussi régulièrement.
J'allais dire, c'est quand même absolument fascinant de voir le poids des autres générations qui nous amènent vers certaines choses qu'on ne peut pas contrôler, qu'on répète.
Oui, alors
c'est fascinant.
Côté on répète, c'est fascinant et en même temps c'est fascinant. Alors vous voyez, dans la fascination, il y a le bon côté et le mauvais côté.
C'est vrai.
Hein, et c'est fascinant dans le sens, c'est très intéressant, ça permet de comprendre beaucoup de choses, et que vous rentrez, quand vous rentrez dans ce genre de choses, vous comprenez plein de choses, votre vie peut s'éclairer sur beaucoup de choses, et c'est très intéressant. Mais c'est aussi fascinant dans un autre sens, où vous risquez d'être complètement fasciné, dans le sens ébloui, perdu dans votre sens, à perdre vos sens, la fascination dans le sens négatif. Et
ah,
en fait,
oui.
On a fait dire beaucoup de choses aux transgénérationnels. Et puis, si je vais te prendre quelques exemples, on va dire, ah oui, mais ça, c'est parce que c'est transgénérationnel. Et donc, comme c'est transgénérationnel, je ne suis pas responsable, donc je ne vais pas bouger.
Ah,
pas
d'accord.
Ce n'est pas ma faute. Il y a aussi, vous savez, c'est un peu la question fondamentale, est-ce qu'il y a une réincarnation ou pas ? Et moi, je ne sais pas, mais j'aime bien l'histoire des deux jumeaux qui sont dans le ventre de leur mère, ils discutent, il y en a un qui dit, est-ce que tu crois qu'il y a une vie après la grossesse ? Et l'autre, je ne sais pas, personne n'en est jamais revenu.
Hein ?
Donc, moi, ce que j'aime dans l'idée transgénérationnelle comme dans l'idée de la réincarnation, il y a un petit côté démissionnaire. Ah, c'est pas de ma faute, c'est à cause du transgénérationnel. Et de toute manière, si j'ai pas fait ça dans cette vie, je le ferai dans la vie prochaine. Donc, je vais rien foutre en attendant, puisque de toute manière, je rattraperai la vie suivante. Donc, il y a un petit côté comme ça. C'est venu d'avant, je suis pas responsable, et j'ai pas réglé le problème, et ça se fera la fois d'après. En fait, ce qui est important de voir le transgénérationnel comme une maille de filet. Et vous êtes dans une maille de filet, il y a ce qui vient d'avant, et est-ce que vous avez donné au suivant ? Est-ce qu'il vient d'avant, vous pouvez soit le subir, soit le transmuter, pour donner des choses transmutées à vos enfants. Le transgénérationnel, on le voit assez fréquemment, j'ai hérité de ça de mes parents, de mes grands-parents, des aïeux. Et c'est effectivement infiniment plus facile, si vous avez la gorge serrée, d'imaginer que c'est parce qu'en 1642, un de vos aïeux a été guillotiné ou pendu, que d'imaginer que c'est parce que vous avez des conflits avec vos parents, ou votre conjoint, ou vos frères, vos sœurs. C'est tellement plus simple. La règle, c'est plus c'est loin, plus c'est proche. Plus je vois des gens qui disent « Ah, j'ai fait des régressions en transgénérationnel, c'est à tant de générations », je sais « Ok, c'est juste à côté ». C'est parce que c'est plus simple de voir les choses loin que de les voir près. C'est ce que disait Brecht, c'est l'effet de distanciation. Je vois mieux les choses si je les pose au loin. Mais en fait, l'idée générale du transgénérationnel, si ça me permet de déployer les choses, mon travail, c'est de réintégrer, c'est-à-dire de redevenir responsable de tout, y compris ce dont j'ai hérité. Maintenant, je le comprends, je le vis plus comme une fatalité, je le vis comme quelque chose que je vais reprendre en main. Parce que ma responsabilité face à la vie, face aux générations suivantes, c'est de ne pas refiler un transgénérationnel de merde. C'est de l'avoir guéri, de l'avoir amélioré. Et chaque être humain se dit, est-ce que ce transgénérationnel, je le repasse à mes enfants amélioré ou aggravé, ou simplement sans avoir fait ? Et je pense que si on peut se dire, je l'ai repassé un peu amélioré, on aura déjà fait quelque chose de bien.
Oui, c'est vrai. Ça serait comme ça. Mais il y a aussi les personnes qui vont se dire « Ah, ben ça s'est déjà passé avant, donc je ne peux rien faire contre. » Ce sont des personnes qui, déjà, à la base, n'auraient pas travaillé sur elles, quoi. Qui n'ont pas envie d'ouverture.
Vous connaissez la célèbre phrase de Gavroche. « Je suis tombé par terre. »
Oui, c'est la faute à...
C'est la faute à Voltaire, venez dans le Rousseau.
Non, c'est la faute
à Rousseau.
Oui, je comprends en vous entendant pourquoi, d'ailleurs j'avais été très surprise de ça sur le DVD, que vous disiez que Coluche était un homme qui avait beaucoup compté dans votre vie.
Et, oui, absolument.
Et ça m'a fait sourire parce que, vous voyez, comme l'esprit humain est fait, pour moi, même si j'aime aussi énormément Coluche, il était très, très loin de tout ce dont vous parlez, tout ce sur lequel vous travaillez.
Pas du tout, moi je trouve que Coluche il est très proche de tout ça. Coluche il a cette idée extraordinaire d'abord parce que l'intelligence humaine fonctionne beaucoup avec l'humour.
Oui,
et l'humour aussi c'est un peu une forme de distanciation qui permet de comprendre. Quand il dit tous les gens sont égaux mais il y en a qui sont plus égaux que les autres. C'est une manière extraordinaire de dire les choses. Et quand il dit grand ou petit, c'est pas important. Ce qui compte, la bonne longueur pour les jambes c'est quand les pieds touchent bien par terre. Je trouve cette phrase absolument fantastique. Il a une manière de dire les choses avec une distanciation extraordinaire et qui nous recadre énormément. Et il a aussi une manière, dans une sorte de, je ne dirais pas que c'est de la vulgarité, mais une sorte de ne rien respecter.
Oui, c'est vrai, il avait l'irrespect de beaucoup de choses, mais c'est ça qui nous faisait bouger.
L'irrespect de la forme pour mieux s'attacher au fond. D'ailleurs, je l'ai dit et je pense qu'un jour, j'aimerais écrire les évangiles selon Saint Coluche.
Oui, j'ai entendu ça.
Mais je pense que c'est un saint laïque, regardez. Bah, c'est extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez une branche de ça au Québec, mais en France, il y a les Restos du Cœur.
Oui.
C'est quand même une œuvre assez étonnante d'un homme qui disait c'est quand même déjà difficile d'être pauvre si en plus il faut demander. Vous imaginez chez lui, il y avait un bol avec des billets pour vous servir pour les gens qui n'avaient pas d'argent.
Oui, je sais.
Les gens qui avaient de l'argent, ils devaient remettre. C'est un personnage tout à fait étonnant. Très, très intéressant.
Oui, il était atypique.
Bon, assez atypique, oui. Bah, atypique, oui. J'ai entendu ce mot-là très souvent pour moi aussi, mais vous savez, il y a des moments où atypique, c'est un compliment.
Mais c'en est un dans ma bouche. C'en est un, parce que c'est vrai. Mais ce que je voulais dire, c'est je vous concède que ce personnage a des ouvertures sur ce que vous apprenez aujourd'hui. Mais en même temps, quand on va voir Coluche, on ne se rend pas compte, ou quand on allait le voir, pardon, on ne se rendait pas compte toujours de tout ce qu'il pouvait nous apprendre. On le sentait après. Alors que si on vient vous voir, vous, en tant que médecin, ça donne un côté sérieux à la chose que ne nous inspirait moins Coluche. C'était juste ce que je voulais dire.
Bon, je vais essayer d'être encore beaucoup moins sérieux. Je ne sais pas si je le suis beaucoup, mais...
C'est pour ça que tout de suite, ça m'a fait un petit peu délirer. Quand je vous ai entendu, j'ai dit « Oh, comme c'est drôle
qu'un des... » Ouais, ben, alors bon, c'est vrai que le médecin doit à son patient, c'est vraiment une obligation, il doit une rigueur scientifique.
Oui.
C'est pas parce qu'il a une rigueur scientifique qu'il peut ne pas être drôle, et c'est pas parce qu'il a une rigueur scientifique qu'il ne doit pas s'attacher justement à l'ouverture d'esprit, à l'ouverture de conscience. Mais le propre du médecin, c'est qu'il donne une garantie, ce qu'en médecine on appelle l'obligation de moyens. Un médecin a une obligation de moyens, et quand vous allez voir un médecin docteur en médecine, vous avez effectivement un certain nombre de garanties à ce niveau-là. C'est pour ça que j'aime enseigner à différentes personnes, mais j'aime aussi enseigner à des médecins et former des médecins. D'ailleurs, aujourd'hui, un des objectifs de vie, de former des gens. Pour les 40 années qui me restent à travailler, je vais former des gens.
Bravo. Qu'est-ce qui vous donne cette passion, Olivier Soulier ?
Bah, écoutez, franchement, on s'amuse. Vous trouvez pas qu'on s'amuse bien ? On est en train
si.
De passer un très bon moment. On parle de la vie, on philosophe, on échange, on partage et on fait partager cette passion. Et je pense que, effectivement, quand la passion est là, il y a beaucoup de choses qui vont beaucoup mieux.
Ça, c'est tout à fait certain. Alors, il faut dire que lorsque vous allez être là, à Montréal, il y a votre conférence Médecine en conscience qui se passe le 8 octobre, ici, à 19h, à l'hôtel Lord Berry. Voilà.
Oui.
Ensuite, nous avons sortir de la sclérose en plaques, c'est possible. Comprendre pour guérir. Le 9 octobre, de 9h à 18h. C'est-à-dire, quand vous arrivez, vous ne chômez pas.
Et, oui, je chôme pas, oui. Hein?
Et pour les ateliers, vous avez les médecines du sens, les 5 cercles de la vie, de la maladie à la guérison. Là, les 10, 11 et 12, de 9h30 à 18h, aussi à l'hôtel Lord Berry.
Voilà. Donc, vous connaissez le programme mieux que moi.
Mais je le connais parce que je vais y être. Je veux voir.
On va, bon, la conférence va permettre de partager au plus grand nombre une vision un peu générale avec des débats, des questions. Après ça, il y aura la journée sur la sclérose en plaques. Je tenais beaucoup à cette journée parce que je voudrais ouvrir un peu les esprits là-dessus. Et ce n'est pas forcément évident parce que la sclérose en plaques, c'est difficile à aborder. Il y a peu de gens qui osent voir les choses autrement. J'encourage tous ceux qui ont une sclérose en plaques ou un proche qui a une sclérose en plaques de venir simplement écouter. Et puis si à la fin ils trouvent que c'est n'importe quoi, ils diront que c'est n'importe quoi. Mais je leur partagerai mon expérience, les 400 ou 500 personnes que j'ai soignées qui avaient une sclérose en plaques. Et puis voilà, je pense que ça peut... Allez, ça peut pas faire de mal.
C'est extraordinaire. C'est extraordinaire de se dire que vous avez soigné autant de personnes... de façon positive, on va dire, puisque ça les a sortis de la sclérose en plaques. Ça, c'est absolument fabuleux. Quelles sont les réactions, je vais poser une question basique, mais les réactions du public quand vous faites une séance comme ça, que vous parlez de la souffrance, que vous parlez de la maladie, que vous parlez de la guérison où tout est possible. Est-ce que vous avez parfois dans l'assistance des gens qui peuvent être... en colère parce qu'encore malheureux de la perte de quelqu'un ou...
Oui, alors ça, ce sont des choses qui sont différentes. D'abord, je ne parle pas en disant que tout est possible. La deuxième chose, c'est que... Bon, je pense que dans l'ensemble, les gens qui viennent me voir, mais c'est vrai que c'est quand même des gens qui ont décidé de faire cette démarche-là. Donc, ils viennent voir parce qu'ils ont envie d'apprendre. Mais il y a toujours des gens qui viennent là, qui semblent... Il y a toujours le critique de la salle, la personne qui a envie de porter la contradiction. Oui. Et c'est très bien, d'ailleurs. parce que ça anime le débat et voilà. Mais quand vous dites à la personne qui est en souffrance parce qu'elle a perdu quelqu'un, bah forcément, quand vous avez perdu quelqu'un, vous êtes en souffrance. Mais c'est une certitude. Si vous avez perdu quelqu'un, vous êtes en souffrance. Ça veut simplement dire que vous l'aimiez. Ça veut simplement dire que c'est quelqu'un d'important pour vous. Et cette souffrance-là, ça ne se guérit pas. La souffrance, ça fait partie de la vie. La souffrance, ça se traverse, ça s'accompagne, ça sème. Mais voilà, je pense que les gens qui viennent, c'est surtout parce qu'ils ont envie de comprendre.
Oui, c'est surtout ça.
Le fait que j'essaie de donner un message qui soit rigoureux et qui soit scientifiquement et médicalement rigoureux, aller raconter qu'on peut faire tout et n'importe quoi, guérir tout, et que quand on a compris, on a tout guéri, c'est faux. Et c'est médicalement dangereux. Je me lève en faux contre cette idée-là. Mm-hmm. Ah, c'est ce que je vous disais. Il y a plein de gens qui meurent guéris.
Bien oui. C'est pour ça qu'il faut le faire savoir et qu'en même temps, je vous provoque là-dessus intentionnellement.
Ah, mais provoquez-moi. Alors, le sens de la maladie et ce que l'on peut avoir de plus, c'est quelque chose qui doit être rigoureux. Je pense qu'aujourd'hui, en matière de médecine, on a d'un côté une médecine scientifique qui, par certains aspects, est ce que je qualifierais moi de scientifiste. Et puis de l'autre côté, on a des tas de choses qui sont parfois un peu trop ésotériques, voire flyées, comme vous dites chez vous.
Oui.
Et ça, je ne suis pas d'accord non plus. Je pense que, en fait, le corps et l'esprit sont aussi importants l'un que l'autre. Les deux s'allient. Et la médecine qui travaille sur le corps, qui fait aujourd'hui des choses extraordinaires, doit s'allier à la médecine qui travaille sur l'esprit. Et je pense, plus loin encore, c'est le lien entre le corps et l'esprit et l'interaction de l'un et l'autre qui nous donne la clé des choses. Donc, je suis, en tant que médecin, complètement convaincu de toutes les avancées de la médecine moderne. Et je pense qu'il faut simplement prendre toutes les avancées de la médecine moderne et rajouter toutes les autres choses possibles. Et que l'obligation du médecin, c'est justement de ne pas avoir de perte de chance. Et la perte de chance, ce serait à la fois ne pas opérer un cancer ou ne pas utiliser des méthodes dures face à des pathologies graves. Mais la perte de chance aussi, c'est de ne pas entrer dans la compréhension. Servan Schreiber, qui malheureusement nous a quittés, disait que les femmes qui ont un cancer du sein et qui ont compris, qui se sentent aimées, qui rentrent dans la compréhension de leur cancer, ont deux fois plus de survie. C'est une réalité, il l'a écrit dans Guérir, avec toute une série de citations scientifiques.
Qui est un très bon livre d'ailleurs.
Oui, très intéressant. Très intéressant.
Vous nous disiez, j'ai repris aussi que vous dites que les maladies aiguës ont un objectif, c'est nous ramener à l'équilibre et à la santé.
Oui, tout à fait.
Alors,
absolument.
C'est-à-dire...
D'ailleurs, Hahnemann l'avait bien dit, Hahnemann, le fondateur de l'homéopathie, l'avait bien dit, il faut favoriser les aiguës et contrarier les chroniques. Les maladies aiguës sont faites pour nous ramener à la santé. Vous mettez une écharpe dans le doigt, la maladie aiguë, c'est l'abcès. L'abcès, c'est pour but de faire sortir l'écharpe. C'est simple, c'est tout. Vous avez un abcès, c'est pour éliminer. Vous avez une fracture, la réaction, l'impotence fonctionnelle qui fait que vous ne pouvez plus du tout marcher. Ça sert à protéger, vous puissiez guérir. Ça, c'est une maladie aiguë. Et il faut essayer de favoriser le plus ces maladies aiguës avec la caractéristique du médecin, c'est qu'il doit permettre à la maladie aiguë de faire son travail, mais qu'il doit apporter, grâce aux méthodes modernes, la possibilité de ne pas mourir bêtement pour une maladie aiguë. Donc c'est un accompagnement avec un filet de sécurité. Mais il vaut mieux, franchement, faire un peu de fièvre pour favoriser son immunité et développer correctement son immunité que de tout couper immédiatement aux antibiotiques et d'avoir une immunité qui ne se constitue pas, avec un risque de maladie auto-immune, d'immunodéficience ou d'allergie. Et c'est catastrophique. En Allemagne, par exemple, ou en Suisse, les médecins en prescrivent deux ou trois fois moins. Et je ne pense pas que leur médecine soit mauvaise.
Sûrement pas. Non, mais je pense... je pense pas qu'elle soit mauvaise. Je pense à tout ça. Je me disais, et quand, en prenant un exemple précis... Par exemple, toutes ces personnes qui, des moments, peuvent vous dire « j'ai des migraines absolument atroces qui ne passent jamais », à me taper la tête contre les murs. Et si vous leur dites, quel est plus ou moins le sentiment qui est là derrière ?
Le sentiment, la migraine, c'est une maladie qui est un peu non spécifique.
Ah, d'accord.
C'est-à-dire, la migraine, c'est quelque chose qui va arriver en résolution ou en décrochage après une surtension. Donc les gens qui ont des migraines sont des gens qui ont des tensions psychologiques, conscientes ou non conscientes, imposées ou non imposées, qui sont en permanence dans un état de stress et de tension interne et d'exigence interne ou externe très important. Et puis une fois de temps en temps, ça décroche, ils ont des douleurs épouvantables. Déjà, ça c'est la première chose à comprendre. Donc c'est pas spécifique d'un type de situation, c'est spécifique général d'un mode réactionnel. Donc là, on peut déjà rentrer dans la compréhension de ça. Je pourrais vous dire aussi que ça soigne très très facilement avec l'homéopathie, les migraines. J'ai jamais vu une migraine qui résiste à l'homéopathie en 30 ans de travail. Mais parce que le remède homéopathique va donner une clé. Mais fondamentalement, quand vous interrogez les gens qui ont des migraines, en 10 minutes, vous êtes immédiatement sur la surtension qui les habite en permanence.
Alors,
ça va très vite.
Justement, vous avez fait, on va revenir en arrière, vos études de médecine, et puis vous rencontrez l'homéopathie. Enfin, vous rencontrez, vous vous intéressez à l'homéopathie. Et là, c'est le coup de foudre.
Oh, c'est même autre chose avant, parce que j'ai eu moi-même à une époque des troubles cardiaques, et la médecine me donnait des traitements, de la digitaline, de la calciparine, etc. Et j'étais parti, on me disait c'est à vie, on va te donner de la cordarone, ça va un peu abîmer ta thyroïde, mais c'est rien, dans 20 ans, tu prendras des hormones thyroïdiennes. Donc j'ai dit c'est pas possible, je vais pas faire ça. En plus, tous les traitements qu'on me donnait ne fonctionnaient pas. On me proposait de faire des électrochocs, c'était pas possible. Donc j'ai été voir un homéopathe qui m'a donné un traitement, et puis ça a guéri. Et j'en ai plus jamais entendu parler. Donc j'ai été amené, comme parallèlement, j'étais très insatisfait de ce que j'apprenais en médecine et que moi-même j'avais expérimenté, je me suis intéressé à l'homéopathie. Et je me souviens aussi, peut-être même en dehors de cette expérience de l'homéopathie, il y a l'expérience que j'ai faite d'assister un jour à un cours, le cours de base d'une formation d'acupuncture, où l'enseignant expliquait la vision du monde selon l'acupuncture avec les cinq loges, les 12 méridiens, les vaisseaux merveilleux, les 6 contrariétés, les énergies cycliques, etc., les saisons et ainsi de suite, les éléments, enfin tout le système de la cosmogonie humaine de l'acupuncture. Et quand je suis sorti de cette conférence-là, de ce cours qui a duré une heure, j'étais émerveillé et je me suis dit, mais j'attends ça depuis le début de mes études de médecine, qu'on me dise qu'est-ce que c'est la vie, qu'est-ce que c'est la maladie, qu'est-ce que c'est la mort, c'est quoi guérir, c'est quoi ne pas guérir, comment ça fonctionne. Et d'un seul coup, je l'avais devant les yeux. Et je me suis rendu compte que ça, je ne l'avais jamais eu dans mes études de médecine à la faculté et que je pense que ça n'existe toujours pas.
Non, malheureusement.
Malheureusement. Malheureusement, alors que c'est le premier cours par lequel devrait commencer la première année de médecine.
Mais voilà. L'homéopathie est quand même...
En première année de médecine.
L'homéopathie, oui, c'est quand même quelque chose qui est à la fois très reconnu aujourd'hui et en même temps où on lui enlève de son importance, je trouve, moi.
Bah, l'homéopathie, elle est à la fois reconnue parce qu'elle marche depuis 2 siècles, parce qu'on a guéri des épidémies gravissimes, la grippe espagnole qui tuait 30% de la population, il y avait uniquement 0,3% de morts avec l'homéopathie, hein, et avec 5 remèdes, c'est tout.
C'est fou.
On disait 5 remèdes. Ah oui, mais il y a énormément d'éléments de cet ordre-là. On a guéri le choléra, on a guéri la tuberculose, on a guéri énormément de maladies au 19e siècle avec l'homéopathie. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il y avait 16 000 lits d'homéopathie au début du 20e siècle. Tout à fait étonnant.
16 000
hein. Et 16 000 lits, oui. Vous retrouvez ça dans l'introduction du livre de Werner Buchauer, où il explique bien toute l'histoire de l'homéopathie aux États-Unis. C'est un livre qui est assez difficile à trouver, mais qu'on peut trouver encore. On se trouve toujours confronté en matière de médecine au lobby de Big Pharma, qui se dit que la pression de l'homéopathie, c'est perdre du chiffre d'affaires. Mais enfin, on sait, maintenant tout le monde sait que la grande pharmacie, c'est les numéro 1 de la délinquance mondiale. Vous savez bien, vous connaissez l'histoire de John Virapon, qui a publié un livre sur les médicaments. John Virapon, c'était le patron du laboratoire Eli Lilly, celui qui a le Prozac.
Oui.
Et donc, quand il est parti en retraite, il a fait un petit peu, il a voulu peut-être laver sa conscience. Il a écrit un bouquin où il dit « J'ai vendu mon âme au diable ». Il explique comment ils ont trafiqué, lui, parce qu'il était le responsable du labo, le PDG international, comment ils ont trafiqué les études sur le Prozac, comment ils ont corrompu des professeurs de psychiatrie pour faire disparaître les suicides, et comment aujourd'hui ils ne savent toujours pas si le Prozac marche contre un placebo. John Virapon, comment j'ai vendu mon âme au diable. Bah, c'est le sous-titre du livre, c'est « Médicaments, effets secondaires, la mort ». John Virapon. C'est dans toutes les librairies, vous trouvez ça facilement. Grand patron de l'industrie pharmaceutique qui raconte ça. Vous voyez, c'est assez simple. Donc, d'un côté, on a l'homéopathie qui est une médecine qui marche depuis très longtemps, qui soigne en France 30% de la population avec 2% des dépenses de santé, ce qui est intolérable, vous reconnaîtrez bien.
Bien sûr.
Et bien sûr, attention, il y a des domaines, on ne fera jamais de greffe cardiaque ou de greffe rénale avec de l'homéopathie, on est bien d'accord.
Non, mais ça oui.
Je dirais qu'il y a 30% des pathologies qui sont inabordables à l'homéopathie. Pour lequel on a besoin des progrès, on a un énorme besoin des progrès de la médecine pure et dure. Mais pour tout ce qui est les maladies quotidiennes, tout ce qui est la constitution de l'identité de la personnalité, l'homéopathie est reine. Et récemment, notre prix Nobel Montagnier, Luc Montagnier, le découvreur du sida, a repris les travaux de Jacques Benveniste, qui avait été beaucoup décrié, pour montrer le fonctionnement du message de l'homéopathie. avec des démonstrations extrêmement scientifiques, où il explique comment le message et l'information du remède homéopathique est transmise dans l'eau, mémorisée en quelque sorte comme une onde vibratoire qu'on peut mesurer avec des appareils dans des petites cellules d'eau. Il explique ça très bien. Il y a une émission qui est passée en France sur France 5 pendant une heure où Montagny reprend tout ça. Et c'est très très intéressant.
Oui, mais je suis toujours sidérée par le fait qu'on ne puisse pas accepter ce qui se passe si bien, ce qui est si intéressant. Et puis en homéopathie, et qu'on arrive à le dénigrer. En tout cas, moi, je suis française et je sais qu'en France, c'est pas ce qui passe. On le met pas en haut de la chaîne.
Oui, bien sûr. Mais de toute manière, en médecine, on vous apprend pas ça. Vous savez, en médecine, pour s'intéresser à l'homéopathie, il faut vraiment le vouloir. Parce qu'on n'apprend pas l'homéopathie. Au contraire, on dénigre l'homéopathie en médecine.
Oui.
Mais en même temps, l'homéopathie, c'est probablement l'avenir. Parce que l'homéopathie fonctionne d'une façon informative, en fait. L'homéopathie, en matière d'informatique, c'est, il y a le hard qui est la machine et il y a le soft. Et l'homéopathie, c'est que du soft. C'est que de l'information, c'est que du message. Mais vous voyez, on est en train de se parler, il n'y a que du message. Regardez, je suis là, je suis à côté de vous. Non, je suis à 6000 km et vous entendez ma voix. C'est une onde qui passe. C'est comme de l'homéopathie. Oui, mais vous savez, certains disent que c'est de la sorcellerie, mais imaginez, vous et moi, on est dans un château au Moyen-Âge, dans 2 heures, on est sur le bûcher.
Ah ben oui, il y a de fortes chances, oui.
On se parle à distance comme ça, donc c'est forcément diabolique, donc on va nous brûler.
C'est vrai.
Aujourd'hui, l'homéopathie, certains voudraient la mettre sur le bûcher. Vous voyez, comme nous au Moyen-Âge. Parce que ce qu'on ignore, on ne comprend pas, on le rejette. C'est ça, c'est tout.
C'est toujours la même chose, on ne le redira jamais assez. La peur vient de l'ignorance. Donc, on ne connaît pas, on a peur. On a peur, on enlève.
C'est pour ça que je pense que la vérité nous rendra libres.
Alors c'est pour ça que vous le faites savoir au plus grand nombre.
La connaissance que la vérité, au fait, qu'est-ce que la vérité, difficile à dire, la connaissance nous rendra libres. C'est pour ça que je cherche à faire savoir au plus grand nombre. Et mais je ne m'intéresse pas au fait de savoir si le message va passer pour tout le monde. Il y a un proverbe que j'aime beaucoup qui dit « La vérité ne triomphe jamais, ses ennemis meurent avant. » Je pense que c'est beaucoup plus simple. Mais on entre... Moi, je trouve qu'on vit une période extraordinaire, parce que, regardez bien, on a fait effectivement des grands progrès avec la médecine, mais aujourd'hui, la médecine se trouve un peu bloquée. Parce que, bon, vous savez qu'en Europe, vous devez avoir exactement la même chose. Mais il y a énormément de résistance aux antibiotiques, et on considère qu'aujourd'hui, les résistances aux antibiotiques sont responsables de 15 000 morts en Europe l'année dernière. Ça, ce sont les chiffres officiels qu'on trouve très facilement. 15 000 morts, c'est énorme. Vous voyez, aujourd'hui, on est en train de nous faire un caca nerveux pour Ebola.
Oui.
On a 1 200 morts.
C'est pas vrai.
La résistance aux antibiotiques, 15 000 morts. Et probablement les effets secondaires des médicaments, probablement 200 000 morts. Bon. Donc, voilà, c'est tout. Et c'est très intéressant parce que, d'une certaine manière, ce sont des choses qui sont tout à fait regrettables, mais d'un autre côté, je me dis que puisqu'on est bloqué sur un certain nombre de choses, on est obligé de trouver d'autres choses. Et c'est le principe même de la création. Einstein disait, quand vous tombez malade dans un système, vous ne pouvez pas guérir dans ce système, il faut guérir dans un autre système. Et je pense qu'aujourd'hui, ne serait-ce que la limitation des antibiotiques, parce qu'on n'arrive plus à trouver de nouveaux antibiotiques, amène les humains à chercher d'autres choses. Et c'est très bien. Et on revient vers d'autres méthodes. Et ça, je trouve ça très intéressant. C'est en quelque sorte, je trouve, le clin d'œil très humoristique de la vie.
C'est tant mieux, la vie reprend le dessus. Pas comme ça que vous le voyez.
Oui, d'une certaine manière. Oui, la vie reprend le dessus d'une certaine manière, c'est vrai. Et si on comprend, j'avais fait un DVD sur les microbes, en disant les microbes sont nos amis. Et bien, quand on comprend la fonction des microbes, ce ne sont pas des ennemis, ce sont des adversaires. Ce sont ceux qui nous testent pour vérifier qu'on soit toujours les meilleurs.
Oui.
Et nous confronter régulièrement, voilà. Et c'est pas la peine de leur taper dessus, ça sert à rien. Il faut apprendre à se défendre, faut apprendre à être costaud.
J'aime d'ailleurs ce que vous dites là-dessus, quand vous dites qu'ils viennent nous dire, alors, vas-y, est-ce que tu es capable de passer la porte?
Quelle porte? Oui, il y a trois types de microbes. Il y a ceux qui vous forment. Qui es-tu? C'est les microbes de l'enfance qui font constituer votre identité. Et après ça, que fais-tu? Ce sont les microbes que vous rencontrez tout au long de votre vie pour voir si vous avez, si vous faites est cohérent. Et la troisième catégorie de microbes, c'est où vas-tu? C'est-à-dire que ce sont tous des microbes qui nous confrontent à des nouvelles portes que l'humanité est en train de traverser. Ebola est un microbe de cet ordre-là. En même temps, c'est intéressant parce que j'ai publié dans quelques jours tout un article pour expliquer le fonctionnement d'Ebola. Et Ebola, si vous regardez bien, il n'intervient pas n'importe où. Il intervient dans des pays qui ont deux caractéristiques. La première, ce sont les pays qu'on a pillés pour avoir des esclaves.
Oui, déjà.
Et puis, ce sont des pays qu'on a pillés pour avoir des diamants. Il faut regarder ce très beau film qui s'appelle Blood Diamond. Où on voit bien l'histoire du Libéria et de la Guinée, où il y a des guerres. Ce sont aussi des pays où il y a eu des guerres post-coloniales effrayantes, où on leur a piqué leurs diamants, on leur a donné des armes, et après ils se sont battus. Souvenez-vous du Libéria, on coupait les bras des adversaires pour qu'ils puissent plus tenir d'armes. Et ce sont dans tous ces pays-là qu'on voit apparaître l'Ebola. Et Ebola, ça donne des fièvres hémorragiques, qu'on appelle des CIVD, des coagulations intravasculaires disséminées, qui sont des maladies que l'on voit dans situation après des très très longs stress. Et là, on a un stress de plusieurs générations, et on a un stress transgénérationnel. Parce que c'est un stress, pourquoi ça s'appelle le Libéria? Parce que le Libéria, c'est là où les Américains ont imaginé régler leur dette vis-à-vis de l'histoire de l'esclavage en reprenant les esclaves américains qui ont envie de rentrer en Afrique et leur conquérir un territoire en virant les autres pour leur donner un pays qu'on appellerait le Libéria. Mais ça veut rien dire. C'est pas parce que vous ramenez des esclaves en Afrique 3 siècles plus tard qu'ils sont heureux. C'est l'erreur a été faite avant et on ne sait pas si ceux qui sont rentrés sont plus heureux que ceux qui sont restés. Mais ça, ce sont les erreurs du colonialisme, les erreurs de l'esclavagisme. C'est aussi les erreurs de penser qu'on est meilleur qu'eux, qu'on a des meilleures techniques.
Ah, ça.
Et on vient déstructurer leur structure tribale en leur disant, regardez, ils sont pauvres, ils n'ont pas d'écran plat, ils n'ont pas de téléphone portable. C'est une catastrophe. Alors qu'en fait, ils ont un système tribal qui fonctionne très bien. Ils sont très heureux. Ils n'ont pas de voiture, ils n'ont pas de télé. Mais ils sont beaucoup plus heureux que nous, très probablement. Et beaucoup plus en équilibre. Peut-être qu'ils vivent moins vieux, mais ils vivent certainement plus intensément que nous.
Ah, plus en équilibre,
oui. Regardons, on est les meilleurs. Bill Gates se ramène en disant, non seulement je vous ai vendu Windows qui ne vaut rien, mais en plus, je vais essayer de vous vendre tous mes vaccins de merde. Et je vais essayer de me faire une gloire après avoir pillé la planète. C'est les escrocs qui essayent de se faire une gloire posthume, tout en venant déstructurer les populations. Je pense qu'il faut être un petit peu raisonnable. Alors ne jouons pas les Bill Gates, c'est pas un exemple.
Non, c'est pas un exemple.
C'est pas un exemple. Et vous avez vu aussi dans le *The Evil Film* que dans le film j'aimais beaucoup Steve Jobs.
Oui, j'allais vous le dire.
Il y avait une émission très intéressante où on parlait de Bill Gates et de Steve Jobs, et le commentateur qui connaissait très bien les deux, il disait, avec Bill, c'était toujours une histoire d'argent, avec Steve, c'était jamais une histoire d'argent.
C'est ce qui fait toute la différence.
Et Steve Jobs disait, je n'ai pas envie d'être l'homme le plus riche du cimetière. Intéressant comme idée.
Ah, je ne la connaissais pas, celle-là.
Ah oui, mais il faut lire le très beau livre de Walter Isaacson sur Steve Jobs. Et il faudra aussi que je publie aussi un jour un article que j'avais fait sur les, à mon avis, les raisons de la mort de Steve Jobs. J'en parle dans le DVD, dans un des bonus, dans Médecine du Sens.
Voilà. D'accord. Alors, on va parler un petit peu de vos DVD, puisqu'on arrive malheureusement vers la fin. Mais c'est pour ça qu'il faut venir vous voir. Donc, vous avez le DVD Médecine du Sens, Comprendre pour guérir.
Et oui, c'est un film qu'a fait Jean-Yves Bignan. Magnifique film avec des images merveilleuses, et Jean-Yves est un homme qui fait un travail formidable de diffusion, de vision du monde différente. Et Jean-Yves et moi, on s'était rencontrés par Willy Barral, ce grand psychanalyste sur lequel Jean-Yves avait fait un film qui s'appelle Entretien avec Willy Barral. Bah là, on a fait celui-là.
Et vous étiez à quel endroit ?
Alors là, on était dans une toute petite campagne à côté d'Agen, dans le sud de la France.
Ah, d'accord.
Et donc, on était dans un petit, une petite maison de maître qui est transformée en hôtel.
Très joli.
Et on a tourné là. Oui, on a tourné là, puis on a tourné un peu dans la campagne d'Agen, un petit peu partout autour. Il y a des très très beaux endroits, effectivement. Et puis Jean-Yves fait de très belles images, magnifiques.
Ah oui,
c'est une sorte de... On l'a conçu comme une balade, en fait.
Mais c'est exactement comme ça qu'on le ressent.
On n'a pas répété, c'est-à-dire que je n'avais rien préparé, il me disait parle et je parlais, voilà, c'est tout, c'est comme ça.
C'est très bien fait, en tout cas.
Voilà. Certains me disent il n'y a pas de questions, mais en fait, ils posaient des questions, mais moi je répondais, mais ils coupaient la question. Il y avait la réponse. Il y a celui-là, et puis bon, on en a fait un récemment sur l'embryologie, donc ça c'est fabuleux, j'aimerais que tout le monde découvre ça, l'embryologie, c'est des clés extraordinaires.
Oui, parce que en plus, c'est votre passion aussi. Donc, vous avez fait un DVD sur sortir de la sclérose en plaques.
Voilà,
vous aviez fait un colloque à Paris.
Voilà, c'est le colloque qu'on avait fait avec Willy Barral, avec Michel Geffard, sur la sclérose en plaques et sur ce qu'on pouvait comprendre de la sclérose en plaques. Et c'est un DVD.
Un double DVD.
Oui, c'est un double DVD, donc il y a 11 heures de DVD. Hein. C'est, voilà, c'était beaucoup de travail de faire ça, mais je pense que c'est important.
Moi, je trouve que c'est plutôt bon signe de la santé du monde que les gens soient intéressés à ce point-là.
Ah oui, mais les gens sont très, très intéressés par la guérison, sont très intéressés par comprendre ce qui leur arrive. Je crois que les gens sont très intéressés par prendre leur vie en main, surtout. Prendre le sens de leur vie. C'est pour ça que, en fait, le terme est une licence. Quand on a fait le film avec Jean-Yves, il m'a demandé, on va l'appeler comment ? Et puis je lui ai dit, je sais pas, puis j'ai réfléchi, puis d'un seul coup ça m'est venu médecine du sens. Donc j'ai dit, ah ça c'est une bonne idée, il m'a dit, bah ça correspond exactement à ce que tu fais. Donc ce terme médecine du sens, c'est un terme assez récent, et que j'ai mis au jour pour ce film. Et ça correspond bien à ce que j'essaye de partager.
Ah bah écoutez, en tout cas, on arrive à la fin de l'entrevue, Olivier Soulier, et c'était formidable. Je n'en ai que plus envie de venir vous entendre. Donc, on le répète, conférence médecine en conscience le 8 octobre à 19h à l'hôtel Lorberry. Sortir de la sclérose en plaques, c'est possible. C'est le lendemain, le 9 octobre, de 9h à 18h. Et pour les ateliers, il faut aller voir sur bioconsensus.ca. La médecine du sens, les 5 cercles de la vie, les 10, 11, 12 octobre, toujours au même endroit.
En association avec Jean-Yves et d'autres personnes encore comme vous au Québec font un travail de diffusion très important. Voilà. Et toutes les infos, c'est sur le site, sur mon site www.lessymboles.com. Et inscrivez-vous à la lettre, comme ça on va diffuser l'information, transférez-la aux autres, c'est gratuit.
Voilà, voilà.
C'est gratuit pour le monde.
C'est une très bonne chose. Alors merci de votre générosité et puis merci de nous avoir parlé.
À bientôt. Au revoir.